le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Un pas de côté. Il est parfois utile et agréable de faire un pas de côté et d'explorer sa discipline à partir d'un autre endroit. Après les tables rondes Sciences et Société, les rencontres Histoire de ma thèse et Histoire de ma recherche, le Lab U propose un nouveau rendez-vous intitulé Un pas de côté, l'interview d'un enseignant-chercheur sur un ouvrage qui ne fait pas partie de sa discipline mais qui l'éclaire. Aujourd'hui, Valerne Dior, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, directeur adjoint du Lab Lex, présente l'ouvrage d'Isabelle Rome avec une introduction de Boris Cyrulnik. Vous êtes naïve, madame le juge, prison, délinquance, récidive, ces mots qui font peur. Édité aux éditions du Moment en 2012. Est également présent Michael Lavenne, son collègue du Lab Lex, enseignant-chercheur aussi, pour quelques compléments. Bonjour Valerne Dior.
Bonjour Hervé.
Pourquoi avez-vous choisi de présenter, vous êtes naïve, madame le juge, prison, délinquance, récidive, ces mots qui font peur?
Alors, pourquoi j'ai choisi de présenter ce livre? C'est un livre qui m'a été recommandé par une amie, juriste, mais pas du tout universitaire, il y a quelques années. Et elle m'a dit que concrètement, c'était un témoignage qui risquait de m'intéresser et qui pourrait éventuellement intéresser mes étudiants en termes. En effet, il s'agit donc, en l'occurrence, d'Isabelle Rome, qui a occupé un certain nombre de fonctions juridictionnelles, judiciaires, et qui nous offre un témoignage, des capsules, des instantanés, de personnes, de procès, d'instances qui l'ont marqué et qui, je pense, peuvent éclairer des étudiants en droit sur ce à quoi peut ressembler une carrière juridique, une carrière de magistrat, et puis surtout sur le type de dossier auquel il pourrait être confronté. Donc il me semblait intéressant de soumettre cela à l'attention des étudiants.
Le livre a la forme d'un témoignage, donc elle raconte son expérience, enfin ses diverses expériences. En même temps, ça parle de droit, ça parle de justice, c'est un magistrat qui témoigne. Donc, est-ce qu'on pourrait définir la forme de restitution de ce genre? Quel rapport à la réalité du témoignage? Parce qu'un témoignage, on n'est pas immédiatement dans l'objectivation de quelque chose, on est dans le statut de témoin. Donc, comment vous définiriez le genre sur la question du rapport à la vérité, à la vérité de la justice telle qu'elle est rendue dans les tribunaux?
J'ai l'impression que la quatrième de couverture résume assez bien les choses. Il nous a indiqué que c'est un témoignage qui est une véritable immersion dans le quotidien d'un juge, mais également qu'il s'agit d'une galerie de visages, alors j'ai envie de dire une galerie de portraits de la justice. Et effectivement, l'ouvrage est découpé en une succession de scènes, de rencontres, de souvenirs entre la fin des années 80 et puis le début des années 2000. Et manifestement, il s'agit d'un témoignage, mais un témoignage très personnel. C'est-à-dire que Isabelle Rome ne s'efface pas de ces scènes. Hein. Elle les décrit en présentant son ressenti, ses émotions, ses indignations. Et donc, très clairement, il y a une dimension témoignage, il y a une volonté de restituer la vérité telle qu'elle l'a perçue, et je pense que c'est important, voilà, c'est la vérité telle qu'elle l'a perçue, les personnages tels qu'elle les a perçus, et parfois même des impressions qu'elle peut avoir qui s'avèrent erronées par la suite sur des personnes qu'elle rencontre dans le cadre de ses différentes fonctions. Donc une réalité, oui, mais une réalité qui apparaît subjective, et c'est peut-être ça aussi le but de cet ouvrage, c'est pour Isabelle Rome de nous présenter sa vision de son expérience et puis de ce que pourrait être la justice.
J'ai lu cet ouvrage, évidemment, je suis rentré dedans et je l'ai lu d'un bout à l'autre, il est passionnant. Alors, la question, pourquoi cet ouvrage est particulièrement passionnant? Quelle est la saveur particulière, on pourrait dire, de ce bouquin?
Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je dois avouer que c'est un livre que j'ai lu une première fois il y a quelques années et puis que j'ai relu et que je trouve très efficace. il se lit vite, il se lit bien. En quelques pages, l'auteur réussit à nous faire passer un certain nombre de messages. Donc on a vraiment une série d'instants... Enfin, ce sont des instantanés, ce sont presque des capsules temporelles. On a un moment, on est en 1987, on avance de quelques années, les fonctions changent, le rapport d'Isabelle Rome à ses dossiers, aux personnes qu'elle rencontre, change. Voilà, la perception change. Donc on voit que selon qu'elle est juge de la liberté, la détention, selon qu'elle est juge d'application des peines ou juge de la famille, elle n'a pas du tout le même rapport à sa fonction. Je trouve que c'est intéressant pour des étudiants et des étudiantes qui se destinent à des fonctions judiciaires, de voir un peu quelles sont les contraintes qui peuvent peser sur les acteurs du procès. Et je trouve que ce qui apporte une certaine saveur aussi à cet ouvrage, alors peut-être qu'on parlera du message politique un peu plus tard, c'est qu'on a une succession de portraits, évidemment, de personnes accusées, de personnes en situation de détresse, de victimes, mais aussi des personnes qui ont pu assumer le rôle de mentor pour Isabelle Rome. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes, Maurice, Marie, des personnes quoi, qu'elle appelle affectueusement par leur prénom.
Oui, on voit ses aînés. Ouais.
Ses aînés, exactement. Et on sent qu'elle n'est pas uniquement le fruit d'une éducation, elle est aussi le fruit d'un certain nombre de rencontres, d'une expérience. Et je trouve que ça rend les choses assez vraies. L'idée, c'est de dire peut-être aux étudiants, voilà, vous avez une formation juridique qui va vous être octroyée par l'université, par vos enseignants, mais finalement votre fonction, vous allez l'exercer sur la base de ce qu'on va vous apprendre sur le terrain. On vous donnera des conseils, et clairement c'est comme ça que j'ai perçu cet ouvrage. C'est vraiment une somme d'expérience. On en discutait l'autre jour avec Mickaël, on se disait qu'il y avait un petit côté carnet de bord, peut-être qu'elle a pris des notes tout au long de sa carrière, et on la voit évoluer, et je trouve ça assez intéressant.
Ça, c'est bien aussi,
c'est vraiment stimulant. Ouais.
Oui, en fait, elle décrit sa tradition, la tradition dans laquelle elle s'inscrit. Quoi. Oui,
fille d'instructeur, d'ailleurs. instituteur, un petit lapsus.
Oui, et elle décrit même les recommandations de son père.
Voilà, donc il y a une scène au tout début de l'ouvrage qui la décrit. Elle descend au petit matin au moment où son père, instituteur, est en train de préparer le tableau noir. Et puis voilà, elle regarde patiemment son père écrire des citations d'ouvrages, de romans à l'écran.
Je crois que même il y a la morale, parce qu'à l'époque, moi, j'étais enfant à ce moment-là, il y avait une morale le matin sur le tableau noir. Ouais.
Exactement, et puis il nous décrit cette scène et on sent que c'est une scène qui va devenir importante pour la suite, et effectivement on sent que ce sont des moments qui sont importants pour elle, en tout cas pour la juge qu'elle va devenir.
Alors maintenant, si on voulait faire un focus comme ça, on en fera plusieurs, mais premier focus sur un épisode particulièrement intéressant de ces témoignages-là.
Alors, il y en a plusieurs. Moi j'ai été marqué par... peut-être par deux ou trois scènes en particulier. Je dis scènes un peu.
Il y a
un petit côté scène. Un côté vraiment. Voilà, c'est quatre pages, et puis en quatre pages, on essaie de faire passer un message. Alors moi, j'ai été assez. Il y a beaucoup d'histoires qui finissent malheureusement mal, des réinsertions qui sont.
Il y a des suicides.
Qui sont un échec, des personnes qui ne trouvent pas leur place. Et il y a aussi des messages très positifs ou des messages encourageants. J'ai pensé notamment à ce chapitre qui s'appelle Abdel, l'écrou et la culture.
Oui.
Ça fait partie vraiment de ces instantanés. Isabelle Rome est coincée dans un embouteillage. Elle n'arrive pas à avancer, elle s'agace. Elle nous explique qu'en gros, elle est complètement frustrée. Et à un moment donné, je ne donne pas les détails pour laisser le plaisir de la découverte, quelqu'un frappe à sa porte et se dit « Tiens, c'est bizarre, c'est pas quelqu'un qui a l'air de demander de faire de la mendicité. » Et il s'avère que c'est une personne qu'elle a décidé de libérer il y a quelques années, qui s'appelle Abdel. Elle se souvient de cette personne et un rapide dialogue s'engage. Abdel la remercie en disant « Voilà, vous m'avez donné ma chance, j'ai réussi à m'en sortir. » Il sort une photo de sa famille. Voilà, cet échange est très bref. Au revoir Madame la juge, au revoir Abdel, merci. Et puis, juste après, elle est coincée dans l'embouteillage, mais finalement, toute la frustration qu'elle avait accumulée en étant bloquée s'évapore, et on sent que ça lui a fait sa journée, ça lui a conforté dans ses principes. Donc ça, c'est un passage qui m'a beaucoup plu. Et peut-être le deuxième, peut-être que je cherche à mettre l'accent sur les passages positifs ou en tout cas optimistes, c'est l'un des derniers chapitres dans lequel elle évoque les actions qu'elle a menées avec un certain nombre de magistrats dans la banlieue lyonnaise.
Ah oui, à Vaux-en-Velin. Ouais.
Voilà, en collaboration avec une proviseure qui s'appelle Marie. Et on voit le fruit des initiatives concertées, des magistrats, des éducateurs spécialisés, des enseignants, et on voit qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que comme c'est un des chapitres qui se trouve à la fin de l'ouvrage, c'est très intéressant, puis ça donne envie de réfléchir aussi sur le rôle que peuvent jouer les magistrats dans la cité.
Oui, oui, oui. Là, vous prenez vraiment le plus heureux, ouais, parce qu'il y a aussi, enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi des affaires absolument terrifiantes,
ouais, ouais. Terrifiantes, tragiques ou dramatiques, oui, c'est sûr.
Oui, alors là, on voit quelqu'un qui juge, donc dans des affaires toujours très compliquées, hein, ça c'est clair. Comment quelqu'un comme elle, mais comment un jury, comment un magistrat fait ? De quelle légitimité il peut se prévaloir, parce qu'il reste un homme comme les autres, une femme comme les autres, mm-hmm. pour décider d'une sanction, de sa durée, de sa levée. Voilà, quelle est la légitimité ? Évidemment, c'est sa fonction, mais comment on construit une telle légitimité ?
Alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile, c'est une question qui est tellement difficile que je crois que les enseignants-chercheurs continuent de travailler sur la question de la légitimité des institutions, de la légitimité des juridictions. Alors évidemment, le premier réflexe serait de dire que sa légitimité découle de sa fonction, de son statut, de sa formation. Elle est passée par l'ENM, hein, donc concrètement elle a acquis tout le savoir nécessaire pour mener cette activité, pour cette mission même plutôt. Et pour ce qui est spécifiquement de cet ouvrage, je dirais que sa légitimité semble se construire à partir de son expérience. C'est-à-dire qu'elle commence, oui. Elle commence très très jeune, et je pense qu'il faut le noter, hein, elle devient magistrate à 23 ans. 23 ans, c'est l'âge de nos étudiants lorsqu'ils arrivent en Master 2, donc je pense que s'il y a des Master 2 qui nous écoutent et qui s'imaginent assumer ses fonctions à 23 ans, ils se disent, en termes de légitimité, je ne me sentirais pas forcément prêt à prendre des décisions aussi dramatiques. Et donc, voilà, je pense que sa légitimité vient dans un premier temps de son statut.
Oui.
Voilà. Il y a un petit côté, première élève, elle a intégré l'ENM, elle est devenue auditrice de justice, puis magistrate, donc voilà, ça c'est un point qui est incontestable, elle a réussi un concours, et puis progressivement, elle gagne, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, elle gagne en consistance, elle traite de plus en plus de dossiers, et concrètement, elle ne commet plus certaines erreurs, elle le reconnaît elle-même, qu'elle a pu commettre au début de sa carrière. Et on sent que sa légitimité vient de sa pratique. Et puis d'ailleurs, cette légitimité sera reconnue par un certain nombre de personnes.
Il y a comme un métier là, qui se construit.
Ouais. Oui, il y a un métier qui se construit. Il y a plusieurs métiers qui se construisent. Oui, d'ailleurs, il faut rappeler qu'elle occupe plusieurs fonctions et que maintenant, elle a même des fonctions ministérielles. Donc sa légitimité s'est vraiment construite à partir de son expérience.
Alors, les affaires décrites, alors vous avez décrit les plus belles affaires, on va dire. repenti qui vient taper à la fenêtre et qui dit « tout va bien, j'ai des enfants », enfin c'est merveilleux. Il y a aussi de sales affaires. Par exemple, à un moment, elle décrit une femme dont le père a... peut-être pas violer, enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, il y a de l'inceste. Mm-hmm. Et cette femme a fait 4 enfants de son propre père. Mm-hmm. Et donc le père est fini par être repéré, puis arrêté. Et cette femme vient voir la juge et lui dit « Vous avez arrêté le grand-père de mes enfants, le père et le grand-père. Et vous me mettez... Enfin, c'est terrible pour nous, on peut pas vivre sans le papy. » Et donc là, on voit que l'affaire est très compliquée. En même temps, Isabelle Rome, donc la juge, affirme que la justice est toujours possible. Et moi, j'ai l'impression même qu'elle en voit comme quelque chose de presque d'objectif, enfin comme une science, quoi. Et qu'il y a toujours un chemin pour trancher. Alors, quelle est la boussole de cette juge ? Comment on pourrait décrire la boussole de cette juge ? Et je rajoute aussi, en plus, quand on envoie quelqu'un en prison, elle sait qu'il peut devenir pire, puisque la prison est l'école du crime, quand
ça
même.
Ça se confirme dans plusieurs des affaires.
Et donc, elle tient ensemble des tas de trucs très compliqués, où il faut protéger la victime, il faut mettre en prison le coupable, en même temps, il ne faut pas qu'il récidive, etc., etc. Donc, quelle est sa boussole ?
Moi, l'impression que j'ai eue, je peux être convaincu du contraire, j'ai l'impression que pour l'essentiel de l'ouvrage, sa boussole, c'est l'humanisme, c'est la morale, c'est l'idée sur laquelle toute personne accusée reste un être humain, est susceptible de s'amender, de s'améliorer, n'a peut-être pas bénéficié d'un contexte familial ou social lui permettant de prendre les bonnes décisions, mais qu'en gros, on peut donner une chance à tout le monde. Et j'ai l'impression que je ne saurais pas expliquer à quoi cela peut être dû, ou si tous les magistrats en début de carrière s'inscrivent un peu dans cette logique, mais j'ai vraiment eu l'impression de lire le récit initiatique d'une juge humaniste qui, à un moment donné, réalise que finalement, sa fonction de magistrat ne lui permet pas de réaliser pleinement la mission de réhabilitation des individus qu'elle a finalement, qui l'apporte. Moi, je serais très curieux de la rencontrer, de lui dire qu'est-ce qui vous a amené à devenir magistrate ? Est-ce que vous êtes devenu magistrate parce que la fonction vous intéressait ? Ou est-ce que vous êtes devenu magistrate parce que vous estimiez que c'était peut-être la fonction qui vous permettra justement de réhabiliter ceux qui peuvent l'être et de sanctionner ceux qui ne peuvent ne pas l'être ? Alors après, ça peut poser aussi... Il y a un paradoxe. Moi, ça me fait penser au chapitre dans lequel elle rencontre Klaus Barbie. Et ouais, il se passe quelque chose.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Et je trouve que c'est un chapitre qui est assez bref, mais qui est très intéressant parce que, et elle est très honnête là-dessus, il y a un blocage qui se fait.
Oui, là elle n'imagine pas l'après de la prison. Non.
Elle n'imagine aucune alternative. Concrètement, la question qui se pose, c'est celle de savoir s'il pourrait bénéficier d'une possibilité de sortie pour des raisons médicales. Il s'avère qu'il va décéder quelques mois ou quelques années plus tard. Et d'emblée, lorsqu'elle entre dans la cellule, Klaus Barbie lui paraît légitimement extrêmement antipathique, ça lui donne même des haut-le-cœur, et on sent en fait que par-delà la fonction de magistrate, donc, la boussole est aussi humaine, c'est-à-dire que concrètement, commis des erreurs qui sont inimaginables, et il est inconcevable en tant que magistrate qu'elle puisse faire preuve de flexibilité avec lui. Donc c'est peut-être aussi le paradoxe. Je ne sais pas si c'est du manichéisme ou pas, on pourra peut-être en parler, mais c'est assez intéressant de noter que cette personnalité qui est Klaus Barbie, concrètement qui est complice ou auteur de crimes contre l'humanité, constitue un peu la limite infranchissable pour Isabelle Rome. On ne peut pas l'envisager, cet homme-là ne peut pas sortir ne serait-ce que pour quelques jours, donc, concrètement il a commis l'impensable. Je trouve ça assez intéressant, ce chapitre est assez intéressant. Ouais.
Mais à vous écouter, je vois qu'en fait, sa boussole, donc sa technique pour presque objectiver l'affaire, est finalement l'humain, ce qui est un peu paradoxal quand même.
Alors après, il y a l'humain, j'exagère un peu, je prends peut-être des raccourcis. On apprend aux étudiants en droit, particulièrement en deuxième année, le principe de l'égalité des délits et des peines. Donc concrètement, il y a un certain nombre d'infractions, de délits, de crimes qui sont prévus dans la loi. Le juge ne peut pas décider de façon complètement aléatoire ou discrétionnaire d'octroyer 150 ans de prison, comme on peut l'imaginer dans certains autres régimes. Donc il y a quand même ce principe qui la guide, mais on sent que la marge de manœuvre dont elle bénéficie est peut-être actionnée par justement... elle tente un peu de faire un profilage des personnes qui sont dans elle, se demande si elles peuvent être réhabilitées, s'il y a un risque de récidive. Et la récidive, c'est une question qui se pose assez fréquemment dans les chapitres de cet ouvrage.
Peut-être le moment de citer page 49, donc. Elle donne une définition de la justice qui est intéressante. Donc je vous demanderai peut-être de la compléter éventuellement ou de la commenter.
Oula.
Oui, difficile. C'est l'agrégation.
C'est une embuscade.
La justice ne repose jamais sur la facilité. Elle n'oppose pas, c'est ça qui m'a frappé moi, elle n'oppose pas le bien au mal. Elle est complexe, ne peut être mue par la peur ni soumise à la pression. C'est pour cela que les magistrats sont indépendants. Il leur appartient de s'intéresser à ceux qui vivent autour d'eux, c'est ce que vous venez de dire en fait, et de regarder en face ceux qu'ils ont à juger. C'est seulement ainsi que la justice peut passer, en toute lucidité.
Alors, j'ai l'impression que c'est pas une phrase, c'est un paragraphe qui résume un peu toutes les tensions de l'ouvrage. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, dans l'ouvrage, elle indique qu'elle se sent l'obligation professionnelle et morale de regarder les personnes qu'elle s'apprête à sanctionner. Elle refuse d'avoir des œillères, elle refuse de devenir une simple courroie de transmission pour la loi, pour le code. Concrètement, il faut appréhender l'individu, comprendre qu'est cet individu, envisager l'impact que pourra avoir l'emprisonnement ou d'autres peines sur son futur. Et voilà, en gros, la justice ne repose jamais sur la facilité. Pour moi, ça résume tout cet ouvrage et toute la démarche de cette magistrate consistant à dire je vais faire le travail nécessaire. Alors tant pis si ça me prend jusqu'à 2-3 heures du matin.
Oui, je viens après, ouais.
Voilà, parfois, alors que lorsqu'elle est juge d'instruction, justement dans la partie où elle est juge d'instruction, c'est là que ça prend tout son sens, parce qu'à un moment donné, elle dit il y a certains dossiers qui paraissent tellement simples que j'aurais pu concrètement statuer, mais elle se dit telle personne n'a été interrogée qu'une seule fois, ça pose peut-être problème, soyons rigoureux. Voyons s'il n'est pas possible de faire témoigner à nouveau certaines personnes. Heureusement qu'on l'a fait, parce que concrètement, il y avait une erreur. Il y a même une fois, je ne sais plus dans quel paragraphe, dans quel chapitre, Elle décrit un risque d'erreur dramatique parce que deux frères qui ont un prénom qui est différencié
oui,
que
oui,
par une seule lettre.
Ils se trompent voilà. sur l'orthographe.
Ouais. Ils se trompent sur l'orthographe et concrètement, ils s'en rendent compte quelques minutes après que les deux frères soient sortis de son bureau. Ils se disent revenez, on a fait une confusion parce qu'elle a un ouais. doute. Et donc, on sent qu'elle est. Elle est pétrie de ce doute, oui. de cette crainte de mal juger. Et ça la rend extrêmement rigoureuse. Et donc, nécessairement, ça lui donne beaucoup plus de travail. Elle décrit des soirées qui sont interminables.
Elle décrit des insomnies aussi, oui. Voilà. Ben justement, là, j'y viens. Donc, un juge travaille beaucoup et très vite, semble-t-il. On prend quelques chiffres. Hein, 3 heures pour visiter 15 détenus, par exemple, qu'elle voit tous les 3 ou 4, 5 mois. Enfin bon. Un divorce, y compris quand il y a des enfants, c'est-à-dire on ne sait pas à qui les enfants vont aller, etc., 15 minutes. Donc comment... Enfin bon, à la lecture de ce livre, moi, j'arrive pas à voir, mais j'imagine peut-être vous plus, comment elle concilie rapidité et lucidité, ouais.
J'ai envie de répondre avec les moyens du bord, je ne sais pas si c'est...
Ouais, c'est ça, avec les moyens du bord.
Je crois que c'est la réponse qu'apporterait toute personne connaissant un peu les cercles judiciaires et juridiques. Hein, bon, il faudrait poser la question à des magistrats et nous répondre. Voilà, il y a des blagues récurrentes dans ce milieu. Voilà, on n'a pas assez de post-it, on n'a pas de crayon. Et oui, j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup avec les moyens du bord, que les journées sont extensibles. Elle décrit à plusieurs reprises, et ça je pense que c'est important pour les étudiants de le savoir dans la perspective de devenir magistrat, elle décrit des journées qui s'achèvent bien au-delà de 19h. Ouais. D'ailleurs, elle n'est pas seule, hein, elle est avec son greffier ou sa greffière.
Oui, aussi, donc, ouais, qui apparemment est enchaîné aussi à la
voilà.
tâche.
C'est un travail qui semble se faire souvent en binôme, il y a un lien de confiance qui s'établit, mais ce lien de confiance implique aussi de traiter systématiquement en binôme les dossiers. Donc ouais, elle décrit des situations dans lesquelles elle reste jusqu'à 23h, minuit, 1h. Et je n'ai pas la citation sous la main, mais elle explique qu'il faut rédiger, avancer, vérifier, corriger. Il y a une espèce de rigueur intellectuelle qui doit être constante, y compris lorsque la fatigue se fait sentir. Et je pense que ça, c'est très important, parce que lorsqu'on est juriste, l'une des choses qu'on essaie de faire passer aux étudiants, c'est que la rigueur est essentielle, à plus forte raison, compte tenu de l'impact de la décision d'un juge sur les personnes visées.
C'est presque un art martial, là. Enfin, une voix, quoi.
Ah, c'est une voix. C'est une voix qui est gouvernée par la discipline, ça, c'est sûr.
Il y a un autre aspect dans ce bouquin de la justice qui n'apparaît pas forcément spontanément. Elle prend le cas de quelqu'un, une pauvre femme, qui a été attaquée par des truands, enfin des braqueurs, dans sa bagnole, dans sa voiture. Et il la frappe, on l'enferme dans le coffre de sa voiture et il demande sa carte de crédit. Ensuite, ils vont chercher l'argent et il la relâche et là, il lui tire dessus. C'est comme sur un lapin. Hein. Il lui casse la jambe avec une balle quoi, de revolver. Et donc, cette femme, évidemment, est cassée, brisée physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc, elle est accompagnée, etc. Et au moment du procès, face à ses agresseurs, elle a une crise de nerfs, hein, littéralement une crise de nerfs, et pique une crise. Et le juge, qui est quelqu'un qui apprécie beaucoup Madame Rome, le juge laisse faire la femme. Et après, Isabelle Rome décrit le procès comme une espèce de catharsis qui non seulement rend le droit, mais aussi remet la victime dans sa vie pour repartir en étant plus, enfin, avec le maximum de résilience. Je l'ai lu d'ailleurs aussi chez Garapon, Antoine Garapon. Donc la justice a une fonction presque médicale. Là. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus là-dessus, sur la capacité de la justice par le procès à rendre la dignité à la victime et même à la remettre dans sa vie, quoi.
Alors, je pourrais surtout restituer ce que dit Isabelle Rome à ce sujet, en n'étant pas forcément un acteur du monde judiciaire. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement marquant, en fait, dans cette scène, donc c'est le chapitre qui s'appelle « Christine, la rage de vivre ». Donc, oui. À ce stade, Isabelle Rome est juge pénale à Lyon, au milieu des années 90. Peut-être lire ce passage qui me semble bien résumer la chose. Christine a montré ce qu'est la rage de vivre, la rage de s'arracher à ses bourreaux, de se soustraire ensuite à l'invasion sournoise du désespoir. Ce jour-là, j'ai perçu très concrètement qu'un procès peut aider à se reconsidérer. C'est pourquoi permettre à toute victime d'être reconnue en son statut, assurée dans ses droits et réassurée dans sa dignité, me paraît une nécessité. C'est le préalable nécessaire pour lui permettre de tourner la page.
De son statut de
pour reprendre. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce passage-là, vers la fin du chapitre, qui est assez court, hein, qui résume les choses. Il y a ce respect de l'ensemble de l'assistance, y compris du juge, hein, qui aurait pu l'interrompre en disant, bah voilà, il y a un décorum à respecter, vous ne pouvez pas pousser un cri de rage, c'est une forme d'exutoire qui était autorisée par le juge. Le juge la laisse finir son cri. C'est exactement ce que décrit Isabelle Rome. Personne ne tente de la maîtriser, de la calmer, concrètement, face à la violence des actes qu'elle a subis et qui viennent d'être décrits, concrètement, on la laisse hurler et elle s'arrête d'elle-même. Et à ce moment-là, le cours du procès reprend. On comprend que l'ensemble des acteurs du procès, y compris les juges, ont estimé que c'était peut-être son droit le plus fondamental que d'exprimer sa rage. Surtout, et selon Isabelle Rome, effectivement, pour répondre à la question, c'est peut-être une étape de la reconstruction. Oui, de se voir reconnaître le statut de victime. Et c'est vrai que le statut de victime, que ce soit en droit pénal, en droit international ou autre, c'est un statut qui, évidemment, emporte un certain nombre de conséquences juridiques, mais on peut imaginer aussi qu'il va avoir un impact psychologique. C'est la reconnaissance du préjudice ou de la violence qui a été subie. Et je trouve que ce chapitre est... Enfin, c'est intéressant que ça soit appelé Christine, la rage de vivre. Ce cri est présenté comme ce qui va permettre à Christine de passer à autre chose. Voilà, elle est confrontée à ses agresseurs, elle leur hurle sa douleur, sa rage. Tout le monde respecte ce moment, et puis concrètement, ensuite, le procès reprend son cours.
Vous êtes enseignant, donc je vais vous poser aussi une question sur la pédagogie, mais je vois Michael, donc Michael Lavenne, qui est aussi présent, qui est aussi juriste, hein, droit public, c'est ça. Hein. Et tout à l'heure, on a un peu changé à propos du titre... Vous êtes naïve, madame le juge. Et ça renvoie à ma question tout à l'heure sur comment elle fait, etc. Et sur une espèce de confiance. Je trouve qu'elle a une confiance absolue en la justice de son pays. Moi, elle la rend. Mais elle a confiance aussi à sa façon de faire. Alors, tout à l'heure, Michael, vous disiez, c'est peut-être ça la naïveté, mais alors au sens peut-être très positif du terme.
Oui, alors... c'est vrai que bon, le livre est vraiment très intéressant à lire, le chapitrage, etc. fonctionne très très bien, mais au total, à la lecture, c'est vrai que j'ai été parfois partagé entre d'un côté la naïveté qui fait du bien, et notamment au début du livre, lorsqu'elle explique les raisons pour lesquelles elle devient magistrate, typiquement, je pense que les étudiants en droit, et ceux en particulier qui voudraient devenir magistrate, devraient lire ce genre de choses. Elle dit, je me permets de le lire, elle dit « La lecture à l'université des œuvres de Rousseau et de Montesquieu m'a ensuite révélé le sens et l'importance de la loi au sein de la société. Oui. » J'ai acquis la conviction que je devais être magistrat. Dire le droit, c'est travailler au respect du contrat qui nous lie les uns les autres, servir ce pacte essentiel qui nous protège de l'agression que constituent toutes les violences. Nous rendons la justice au nom du peuple français, en application de lois votées par les représentants qu'il s'est choisi. N'est-ce pas une noble fonction démocratique ? Et je trouve que là, en quelques lignes, elle replace la fonction du juge dans la démocratie, comme ça, enfin, je veux dire, elle le fait presque... Enfin, on voit que c'est... Voilà, elle le fait très simplement. Et donc ça, cette naïveté-là, je trouve qu'elle a fait du bien. Et après, c'est vrai que parfois, sur les témoignages, mais mon avis n'est pas complètement fait, j'avoue, sur ce point-là, c'est que, effectivement, j'aurais tendance à dire d'une formule, elle juge avec son cœur, et finalement, on voit moins les codes. C'est-à-dire que tu disais qu'il y a le principe de l'égalité des délits et des peines. Et c'est vrai que finalement, peut-être tu me diras si je me trompe, mais le droit est derrière, en fait. Le droit est...
Un échafaudage,
ouais. Ouais, il est derrière, et on voit bien que c'est l'appréciation humaine, et elle juge avec sa personne, effectivement. Et donc, c'est vrai que parfois, je me suis demandé... Je me suis posé la question, du coup, de la sélection des affaires. C'est-à-dire que...
Oui, qui est présente dans l'ouvrage.
Parce que finalement, ça se présente comme étant le récit d'une vie de magistrat. Mais évidemment...
Elle a fait un tri, oui.
Elle a évidemment fait un tri. Et donc, du coup, c'est vrai que pour entendre parfois d'autres magistrats évoquer leurs fonctions, on voit bien que c'est y a d'autres types d'affaires. Et donc, du coup, cette naïveté... Alors moi, je l'ai trouvée dans le sens... la naïveté, effectivement, de cette femme de 23 ans qui va dans la fonction de juge avec les bons principes. Et vraiment, vraiment ça m'a fait du bien de même me rappeler ce qu'elle disait sur Montesquieu, etc. Et puis après, sur la suite, je me suis posé la question sur les sélections, parce que finalement, à la fin de certains témoignages, oui, effectivement, il y a la question de la récidive, la liberté conditionnelle. On voit bien qu'il y a une forme de militantisme
l'état des prisons
auquel on peut d'ailleurs souscrire, hein, c'est pas du tout. Mais on voit qu'il y a un militantisme dans la scénarisation de cette histoire de magistrate. Et donc, c'était pas si naïf, de mon point de vue.
Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est tout sauf une naïve. Ouais, ouais.
Oui, voilà. Mais c'est ça.
En fait, donc, du coup, qu'on l'a taxée de naïve quand elle a débarqué jeune, parce qu'elle pense tout le temps à l'après-prison. C'est ça qui est intéressant.
Mais du coup, elle est peut-être naïve quand elle rentre dans la fonction, mais dans la manière dont elle la restitue pour défendre ses idées, elle l'est pas du tout.
Non. Elle est absolument remarquable. Ouais. Peut-être on peut finir sur la question pédagogique, parce que c'est des ouvrages, c'est un ouvrage que vous voulez donner à lire à vos étudiants. Alors quel est l'intérêt d'un détour pour faire du droit? Parce que le droit, on imagine, c'est des lois, c'est des textes, c'est des commentaires de textes, etc. Enfin bon, il y a un côté scolaire, surtout les premières années. Mm-hmm. Et là, vous donnez cet ouvrage qui n'est pas un manuel, qui n'est pas de commentaire du texte non plus. Quel est l'intérêt pour des étudiants de droit de troisième année, par exemple, de lire cet ouvrage? Qu'est-ce que vous pouvez en faire aussi, ouais, avec des étudiants?
Ouais. Pour moi, cet ouvrage, il s'inscrit un peu dans la continuité de certaines publications des dernières années. Maître Mot, donc Guet-apens, Olivia Dufour, Justice, une faillite française. Donc, en fait, des ouvrages qui sont alors soit des essais, soit des témoignages sur ce qu'est la justice, sur l'état de la justice, sur la question de l'emprisonnement, de la réhabilitation, de la réinsertion. Donc, évidemment, ce sont des thématiques qui sont au cœur de certains enseignements, alors pas forcément ceux que j'assure paradoxalement, mais d'enseignements en droit pénal, en politique publique et autres. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ce sont des illustrations qui sont extrêmement importantes pour les étudiants. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, on parlait tout à l'heure de galerie des portraits. On pourrait s'attendre à la présentation de magistrats, de procureurs, de policiers ou autres. Et finalement, ce que je trouve génial, c'est qu'elle donne aussi une place à d'autres acteurs. D'autres acteurs du procès ou de la réinsertion.
Ah oui, on n'en a pas parlé assez. Ouais,
voilà,
oui.
les éducateurs spécialisés, les psychologues, les psychiatres, les enseignants, en montrant que ce sont tous des acteurs de la justice, d'une certaine manière. Voilà, de la justice en France, ça fait penser justement à ce chapitre sur la rencontre qui se fait avec les collégiens ou les lycéens. Ils lui posent la question, la justice, la loi c'est vous? Elle répond non, la loi c'est nous, tous ensemble. En intégrant dans ce tous ensemble un certain nombre de personnalités, des acteurs de ce qu'on appelle les acteurs de terrain, parfois pour aller un peu plus vite. Et moi j'ai bien aimé la place qu'il donnait à ces acteurs de terrain.
On n'a pas eu le temps d'en parler, c'est dommage. Ouais, ouais.
Ouais, mais en tout cas, c'est Maurice et son association La Puce, ce sont c'est Marie Laproviseur, de nous montrer qu'en fait, pour repenser la justice, il ne faudra pas uniquement repenser le fonctionnement des juridictions, il faudra aussi repenser l'éducation de manière générale, parce que l'éducation est peut-être
la pratique de la citoyenneté.
Oui. Et la pratique de la citoyenneté, c'est justement au cœur des derniers chapitres. Concrètement, on sent qu'il s'est passé quelque chose, il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées, elle envisage les choses différemment, elle se dit finalement, il faut qu'on, nous magistrats, allions sur le terrain, qu'on rencontre les adolescents et qu'on leur explique que l'État, la justice, la loi, c'est aussi eux. Il faut qu'on les fasse entrer dans des conseils citoyens et qu'ils aient conscience, pas uniquement de leurs obligations, mais aussi de leurs droits et de leurs responsabilités.
Et en plus, il se trouve, d'après l'expérience qu'elle raconte, que ça marche, quoi.
Et apparemment, ça marche.
Ça marche avec Avaux-en-Velin, qui est un endroit qu'on connaît plus pour des voitures brûlées que pour des comités citoyens d'élèves qui refabriquent le règlement intérieur du lycée.
Voilà.
Ils vont tous ensemble à l'Assemblée nationale et tout d'un coup, ils font tous de la politique au sens le plus noble du terme. Même.
Exactement.
Eh bien, sur cette bonne nouvelle, on va conclure. Merci à Valerne Dior, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, directeur adjoint du LabLex. Merci également à Michael Laven, qui était là en featuring, mon invité. Également chercheur au LabLex.
Valerne Dior featuring Michael Laven.
Lors de notre prochain rendez-vous, on va inverser les rôles. Michael Laven donc, présentera une bande dessinée de Étienne Davodeau et Benoît Colomba, Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République, parue aux éditions Futuropolis en 2015, Paris.